le progrès, les prises de conscience, le développement durable, et vous, et nous tous en fait. C'est ça qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Le développement durable, beaucoup de gens savent ce que c'est vaguement, plus ou moins précisément. Classiquement, il est représenté comme cela. Un pilier écologique qui vise à faire attention aux ressources naturelles, c'est ce qu'on retient le plus facilement, finalement. Un pilier économique qui veut dire qu'il faut faire attention à ses ressources, mais il faut faire attention aussi à continuer à avoir une société, disons, économiquement viable. Et un aspect social qui dit qu'il faut qu'on soit aussi tous égaux, tous représentés, qu'on ait des libertés, principalement. Et c'est l'association de ces trois aspects, écologique, économique et social, qui va former le développement durable. Mais en même temps, vous savez tous ce que c'est le développement durable, mais personne ne sait vraiment ce qu'est le développement durable. Vous voyez, on a un ensemble comme ça d'informations contradictoires quotidiennes qui nous rappellent, certes, certaines sont plus précises, comme je vois là-bas en haut à gauche les défis de la Terre, ou en haut à droite le Grenelle de l'environnement, en bas à gauche le climat, avec sans doute une banquise qui est en train de fondre. Mais on a encore aussi beaucoup d'autres informations dans la vie de tous les jours qui nous intéressent. Et j'imagine qu'ici, vous en trouvez aussi. Des définitions trop nombreuses, finalement. À force de... Tout le monde parle du développement durable, on ne se rend plus vraiment compte de sa signification. Je vous ai mis d'autres exemples, j'ai essayé d'illustrer cela. Ici, c'est BP, donc un fournisseur d'essence, quelque chose dont on se sert forcément tous les jours. Le développement durable, dit le représentant de BP il y a quelques années, c'est produire plus d'énergie. Plus d'énergie, plus de pétrole, plus de gaz, peut-être plus de charbon et de nucléaire, et certainement plus d'énergie renouvelable. Dans le même temps, rajoute-t-il, il faut s'assurer que cela ne se fait pas au détriment de l'environnement. On a ici EDF, premier producteur nucléaire mondial. Le groupe EDF investit pour une croissance industrielle durable. C'est cet adjectif de durable qui est important. Il veut être un acteur avec trois priorités, être un acteur majeur du renouveau du nucléaire, promouvoir l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, conforter son leadership européen et ses atouts compétitifs. Mais est-ce que tout cela, c'est vraiment compatible, en fait? En tout cas, EDF essaie de rendre cela compatible. D'autres discours, ici Porsche, une marque connue aussi. L'objectif affirmé de Porsche est de réduire au minimum les effets préjudiciables à l'environnement et de soutenir également les efforts internationaux visant à résoudre les problèmes écologiques globaux. Vous voyez, même Porsche, qui pourtant produit des voitures, les voitures, vous savez tous que ça consomme avec de l'essence, que l'essence, ça génère du CO2, basiquement. Mais même Porsche essaie d'avoir cette démarche-là, à sa manière en tout cas. Et pourtant, il y a aussi d'autres commentateurs, ici Nicolas Hulot, qui dit que justement, le développement durable, on se gargarise tellement du terme de développement durable qu'il finit par lui donner la nausée. À force d'entendre que tout le monde fait du développement durable, Nicolas Hulot en a marre parce qu'il ne sait plus vraiment si cela a vraiment du sens. Est-ce que faire un grand prix de Formule 1 aux portes de Paris ou ailleurs d'ailleurs, sous le signe du développement durable, est-ce que ça, c'est encore faire du développement durable? Est-ce qu'un grand prix, est-ce que tout, finalement, et n'importe quoi, peut faire partie du développement durable? Alors, ce que je vous propose pendant ces trois quarts d'heure qu'on a ensemble, c'est de voir, justement, d'où vient ce développement durable. Et comment l'idée du développement durable, comment la prise de conscience du développement durable est arrivé. Et je crois que c'est cette prise de conscience qu'il faut retenir, plutôt que des définitions diverses et variées que nous avons tous l'occasion de lire et de savoir chaque jour. C'est d'abord la conscience d'un progrès et d'un développement, un progrès et un développement faramineux. Je veux dire, c'est très difficile de s'en rendre compte pour vous, pour moi, mais pour nous tous, surtout dans les pays riches, parce que nous sommes en France, c'est un pays riche. Surtout dans les pays riches, c'est difficile de se rendre compte de ce progrès fantastique qu'il y a eu depuis 200 ou 300 ans, disons, qui a commencé, grosso modo, avec la révolution industrielle, Oui, c'est des choses qu'on étudie en cours et qui nous servent, qui devraient plus nous servir à comprendre aujourd'hui. Et c'est ce progrès et ce développement qui vont générer certaines limites, certains problèmes. Et c'est le développement durable, ça va être cette prise de conscience de ces limites et de ces problèmes. Et ça va être une réponse possible à ce paradoxe entre un progrès qui nous sert, qui nous fait plaisir, qui nous permet beaucoup de choses, mais qui crée aussi des problèmes d'environnement. Ce sont les trois piliers, l'environnement, des problèmes économiques, parce que tout le monde n'est pas aussi riche que tout le monde, et des problèmes sociaux, parce que tout le monde n'est pas égal, il n'y a pas, l'égalité n'est pas accessible à tous. Donc on va commencer par les progrès, parce que c'est plus agréable. Par exemple, des progrès dans l'espérance de vie. Hein. Regardez, même moi j'étais surpris en essayant de chercher à illustrer cette présentation. L'espérance de vie, d'après l'Institut National d'Études Démographiques, un institut français, était de 25 ans en 1740, donc il y a 250 ans, 270 ans, et 300 ans disons. 25 ans, et on arrive en l'an 2000, l'espérance de vie est de 80 ans. Vous vous rendez compte le bon ? Ça veut dire qu'avant, on vivait en moyenne 25 ans. En fait, on vivait un peu plus, parce que ce qui comptait, c'était la mortalité infantile. Il y avait beaucoup de jeunes enfants qui mouraient. Donc disons qu'on vivait en moyenne entre 30 et 35 ans. Aujourd'hui, on vit facilement jusqu'à 80 ans. Donc tout ça, c'est lié à des progrès sanitaires notamment. Hein, plus d'accès à la santé, aux soins, à l'hygiène, aux médicaments. Il y a un nom qui revient, c'est celui de Pasteur au moins. Des progrès démographiques. Alors on a fait des petits changements techniques, on reviendra tout à l'heure sur la technique. Mais ici, vous devriez voir une courbe qui montre tout simplement qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Alors je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je sais qu'aujourd'hui on est un peu plus de 6 milliards. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on était quand même beaucoup moins. On a la chance d'être de plus en plus nombreux sur Terre. Hein. Et comme dit le dicton, plus on est de fous et plus on vit. C'est quelque chose c'est génial. C'est une chance aussi, finalement, d'être de plus en plus nombreux. Des progrès dans l'éducation, ça vous le savez, vous le savez très bien aussi. J'essayais de trouver des informations sur ce saut, sur ce niveau d'instruction. J'ai trouvé quoi ? J'ai trouvé ça notamment au XIXe siècle. Il y a eu énormément de progrès dans l'éducation. Il y a eu aussi des progrès qui ont été couronnés finalement par la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'école mise en place par Jules Ferry, je l'ai entendu, merci. Donc on n'est pas forcément lié à la photo, mais on trouve facilement ce genre de choses maintenant sur Internet. Des progrès dans l'éducation, c'est quand même une chance que de plus en plus de gens peuvent s'instruire librement. Et c'est même obligatoire pour assurer que tout le monde ait le droit de pouvoir lire, de pouvoir écrire, de pouvoir communiquer, de savoir, d'avoir une culture croissante. Des progrès dans la productivité. Ici, on va commencer par ce tableau. Vous voyez, en bas, c'est le nombre d'heures travaillées. La courbe violet, et en rouge, c'est la production par ouvrier. Pour 100 heures de travail, c'était dans l'industrie du coton, je crois, ah, c'est écrit là-haut, voilà, industrie du coton au Royaume-Uni, pour 100 heures de travail, un ouvrier produisait 100 unités de quelque chose, mais peu importe. Pour le même nombre d'heures, 15 ans plus tard, il produit 440 unités. Non, 4,4 fois plus, 4 fois plus, en faisant le même travail. Hein? 15 ans encore après, il arrive à produire 800 et quelques unités. En 1880, il arrive à plus de 1000 unités. C'est-à-dire, pour la même somme de travail, on arrive à faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Et encore, vous voyez, ce sont des choses du 19e siècle, qui ont un siècle, mais c'était donc cette révolution industrielle, finalement, aidée par les machines, notamment, et l'organisation du travail. On voit aussi là, alors, des progrès, d'autres exemples du progrès dans le développement des machines et de la mobilité. Vous avez à gauche les premiers pistons de Denis Papin, puis les premières machines à vapeur, et puis les premières locomotives. Les noms connus, c'est Denis Papin et, oui, Newcomen et Watt aussi. et qui ont donné lieu, j'ai pas mis d'image de TGV, mais l'aboutissement c'est ça. Vous vous rendez compte aussi ce progrès en deux siècles, je reviens en arrière, c'était Denis Papin, bon c'était quelques pistons de 1690, les premières locomotives vers 1800, et maintenant on va, vous savez tous qu'on va à 300 km/h en TGV. Vous vous rendez compte, le saut pour se déplacer, hein, je crois que vous savez que je viens de Rennes, j'ai mis 2 h 05 min pour venir de Rennes. Eh bien, et bientôt, je ne mettrai plus que, je crois, 1 h 20, 1 h 30, parce qu'ils vont faire de plus en plus de lignes comme ça. Ça va de plus en plus vite, de plus en plus loin. C'est ça aussi le progrès technique, c'est une chance. J'aurais pu parler de l'aviation aussi, on peut prendre l'avion. Donc des progrès, si vous voulez, dans la santé, dans l'éducation, la population, la productivité, la technique. On pourrait aussi dire qu'il y a de plus en plus de démocratie dans le monde, de plus en plus de gens ont le droit de vote, il y a de plus en plus d'égalité hommes-femmes, bien que je vous accorde qu'il y ait beaucoup de choses à faire encore, on en parle régulièrement, comme améliorer les salaires entre hommes et femmes, par exemple. Les premiers droits du travail aussi, les travailleurs sont de plus en plus encadrés par des lois, par des règlements, les entreprises aussi. Amélioration continue des transports et des communications. Je veux dire, vous êtes là, sans doute la première véritable génération Internet et télécommunications. C'est fou. Production alimentaire croissante, on a aussi de moins en moins de problèmes pour se nourrir. Je veux dire, quand vous allez au supermarché, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Enfin, si vous avez un peu d'argent. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des papayes d'Amazonie, par exemple. Mais il y a quelque temps, on ne mangeait jamais de papaye. Mais ne serait-ce que le café, c'est quelque chose d'assez récent. Alors la papaye, c'est rare, mais c'est parce que j'aime beaucoup la papaye. Ah, écoutez, on a tous ces petits péchés. Alors, donc j'ai quelques images qui ne marchent pas, mais... Des progrès pour toute la planète. Des progrès, de toute façon, il n'y a pas les images après, donc je remets celle d'avant. Des progrès pour toute la planète, c'est-à-dire que... Les premiers grands échanges internationaux ont commencé au XVe siècle. Il y avait des grands ports comme Venise, notamment. Il y a eu la découverte de l'Amérique en 1492. Merci. Et puis, tout ça, ça s'est abouti donc depuis 1500, si vous voulez. Il y a eu des grands voyages, il y en a eu avant aussi, mais qui se sont... dont l'image que je voulais montrer, c'était la Terre vue de la Lune. Là, on arrive... Enfin, on arrive. Quelques astronautes arrivent, font un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, et voient la Terre comme ça, qui est une seule et même planète. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus éduqués, savants, on peut vivre de plus en plus longtemps, et on vit aussi tous ensemble. Et c'est super aussi de s'en rendre compte. C'est aussi le progrès. Donc c'était ça, la planète Terre. Mais un autre exemple de progrès technique, c'est le développement de l'armement, par exemple. Vous voyez, là, c'est une idée, il faut que je vous détaille un peu, mais l'idée, c'est qu'une épée, disons que ça a un indice de capacité destructrice de 20. Hein, un indice un peu imaginaire, si vous voulez. De 20 quelque chose, un indice. C'est-à-dire que un fusil à pierre du XVIIIe siècle, c'est un indice de 47. Vous voyez, on a mis beaucoup de temps avant de réussir à faire des armes qui arrivent à vraiment détruire. Et aujourd'hui, on arrive à faire des armes qui détruisent de plus en plus. Vous vous rendez compte les chiffres auxquels on arrive finalement? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le tableau. Ça va. Au début, une épée 20. Pourtant, avec une épée, on peut déjà tuer quelqu'un quand même. Même plusieurs personnes. Hein, si vous regardez D'Artagnan, par exemple, ou d'autres héros comme ça. Avec des fusils aussi, on peut déjà faire beaucoup de dégâts. Avec des canons aussi. Et regardez, aujourd'hui, jusqu'où on arrive à aller. Les dégâts qu'on arrive à faire. Hein? Et l'idée, c'est justement, à un moment, de se demander, mais jusqu'où on veut aller avec ce progrès technique? Parce que, celle-là non plus ne marche pas, mince. Parce que ce schéma, c'était un peu une espèce de... C'est pas une blague, parce que c'est la vérité. On peut tuer de plus en plus, on a des armes de plus en plus puissantes et destructrices. Mais voilà, comme la bombe nucléaire, tout à fait, qui est l'aboutissement. Oh. Attendez, alors là, ça a sauté d'un coup... Ah, je me suis trompé de touche. Voilà, ça c'était la bombe nucléaire. Mais vous connaissez tous, vous avez déjà vu le champignon atomique d'Hiroshima, non? Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne chose que vous l'ayez, qu'on l'ait tous vu. Peut-être que. Mais bon, en tout cas, c'est ça aussi l'aboutissement du progrès. C'est aussi des dérives. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette puissance, de ce progrès? Cette phrase qui est écrite en bas, c'est Rabelais justement qui l'a dit. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que cette science, cet usage de la science, comment on fait, enfin, quel sens on lui donne? Quel sens vous voulez lui donner à la science et à la technique? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait d'autres armes plus destructrices? Est-ce que, comment on oriente le progrès? Comment on arrive à réfléchir ce progrès, voire à le maîtriser? Là aussi, j'avais des... Bon... Et je voulais justement arriver aux limites et aux inégalités entre Nord et Sud. Ouais, si je maîtrisais mieux la technique aussi bien que vous, je l'aurais mis en PDF, comme ça on aurait eu toutes les images. Mais j'ai encore des réflexes à prendre. Là, c'était deux images rigolotes de Plantu. Mais c'est bien, je vous l'ai décrit comme ça. C'est un dessinateur du monde, celui qui fait des petites souris souvent à la fin de ses débats et qui fait Sarkozy avec une tête un peu carrée. Voilà, des caricaturistes, tout à fait, satire, faut pas. Et là, on voyait ce que disait Rabelais aussi, la moitié du monde ne sait comment l'autre vit. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai décrit, tous ces progrès que je vous ai décrits, c'est quand même la moitié, les pays du Nord qui en profitent, les pays riches, les pays qui, justement, ont vécu cette révolution industrielle et qui sont allés au bout du progrès. Or, il y a toute une partie de la population, cette population qui vit sur la même planète avec nous, qui elle aussi fait partie des 6 milliards de personnes, toute cette population, la moitié au moins, en fait un peu plus, la moitié de la population sur Terre ne profite pas de tout ce progrès technique. Ou pas nécessairement. Par exemple, ici, c'est une représentation des pays en fonction de leur richesse, disons. Vous voyez, on ne connaît pas ce monde-là. On voit bien qu'il y a les pays du Nord. On voit bien que ce sont les pays du Nord qui sont riches. Et encore, ça date de l'an 2000, parce que la Chine devrait avoir plus de place aujourd'hui. Et l'Inde aussi, sans doute. Enfin, le Brésil aussi. Mais bon, en l'an 2000, en tout cas, vous voyez bien cette différence. Toutes les richesses sont concentrées dans les pays du Nord. Alors qu'il y a énormément de gens qui vivent aussi dans les pays du Sud. On n'est pas forcément des pays surpeuplés dans les pays du Nord, au contraire. Hein, donc on reconnaît trois pôles, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le Japon et la Corée du Sud, avec un petit peu l'Australie aussi. Et vous voyez la taille de l'Afrique, c'est fou, elle a presque disparu. Ah, mais je retrouve quand même quelques dessins, c'est plus de Plantu, mais c'était pour illustrer aussi. Heureusement, vous préférez les dessins, c'est ça, c'est plus facile. Donc un joli dessin pour monsieur avec... une moitié de la planète qui dit « ce n'est pas équitable ». Ce n'est pas équitable. Non seulement il y a de la population, non seulement il y a de la pollution, je veux dire, mais en plus, ce sont ceux qui polluent, ceux qui génèrent les nuisances environnementales, ne sont pas ceux qui subissent ces nuisances. Ils font subir leurs nuisances ailleurs, très souvent. Il y a aussi une appropriation des richesses de la planète, des ressources, si vous voulez, des richesses naturelles, des ressources, par une partie minime de la population. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce tableau. On parle souvent d'empreinte écologique, en fait. Si on vivait tous comme des États-Uniens, oui, ça se dit États-Uniens, parce que Américain, ça serait le continent américain. Moi, je préfère États-Uniens, c'est plus précis. Alors, si on vivait tous comme des habitants des États-Unis d'Amérique, si vous préférez, on dit souvent qu'il nous faudrait 5 planètes pour vivre comme eux. C'est-à-dire qu'ils consomment beaucoup trop de ressources par rapport à la capacité de la planète. Si on vivait tous comme eux, il nous faudrait les ressources de 5 planètes. Or, ce que vous savez tous, c'est que c'est pas possible. On n'a pas 5 planètes à notre disposition. Donc on ne peut pas tous vivre comme des habitants des États-Unis d'Amérique, alors. Des limites aussi liées, ici c'est l'exode rural. Le progrès, il a aussi complètement transformé la répartition des populations sur Terre. Depuis peu de temps, il y a plus de gens qui habitent en ville que des gens qui habitent à la campagne. Depuis peu de temps, c'est le tableau du bas, depuis 2006, je ne sais plus très bien, mais entre 2005 et 2010, donc. Et en haut, vous voyez, il n'y a pas de titre, mais c'est le pourcentage de population qui habite à la campagne et qui habite en ville. Vous voyez, en 1800, en deux siècles, l'écart s'est complètement inversé. Avant, la majeure partie des gens vivaient dans la campagne, étaient agriculteurs, paysans, artisans. Et aujourd'hui, la plupart des gens, surtout dans les pays riches, parce que là, ce sont plutôt des pays du Nord, la plupart des gens vivent en ville. Et ça ne signifie pas n'importe quoi non plus. Des limites à l'espérance de vie. Tout à l'heure, l'espérance de vie que je vous ai montrée, c'était celle d'un pays comme la France. Mais en fait, l'expérience de vie est largement dépendante de la richesse des pays. Vous voyez, dans le tableau de gauche, c'est donc l'espérance de vie qui monte de 0 à 90. Et en bas, c'est la richesse des pays. Nous, on est plutôt un pays... Est-ce que vous savez où on est sur le graphique? Vous arrivez à lire le graphique. Nous, on est plutôt un pays riche, donc on est plutôt à droite. Et on a une espérance de vie, on a vu tout à l'heure, à peu près 80 ans. Donc plutôt en haut à droite. C'est-à-dire, on est parmi les pays privilégiés. Mais il y a toute une partie de pays où les revenus sont bien plus faibles et où on voit tout de suite que l'espérance de vie, elle descend. Et oui, qu'elle descend jusqu'à 35-40 ans quand même. C'est pas énorme, 35-40 ans. Surtout pour nous Français. Je ne vous dis pas mon âge, mais si on devait mourir à 35-40 ans, je ne serais pas ici, je serais parti... Je me dépêchais de profiter. On voit aussi qu'il y a d'autres problèmes. Je vous ai dit qu'on soignait mieux, qu'il y avait plus d'hygiène, mais on a aussi créé ou généré où il y a des maladies qu'on ne soigne pas, dont on s'est débarrassé, nous, peut-être pays riches, mais qui tuent encore dans beaucoup d'endroits et qui nous menacent tous, d'ailleurs. Hein, à votre âge, il va falloir commencer, là, sérieusement, à découvrir ce que c'est que le sida et à savoir comment on fait pour se protéger, notamment. Des limites à la scolarisation. Je vous ai dit qu'on était tous de plus en plus éduqués, qu'on savait de plus en plus de choses. Mais pas forcément. Là aussi, ce sont plutôt les pays riches qui profitent de ce taux de scolarisation, de cet élan, de ce taux de scolarisation. Dans les pays plus pauvres, les taux de scolarisation peuvent être très faibles. Vous voyez en bas à gauche, 10%, 20%, alors qu'en France, c'est 100%. Bon, vous savez, 99,999, parce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui échappent toujours. Mais la plupart des gens vont à l'école. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, il me semble bien. Sauf ailleurs, justement. Ailleurs, il y a seulement 20% des enfants qui vont à l'école. Et donc là encore, c'est en fonction, ce sont certains pays qui ont profité de ça, pas tout le monde. Ce sont encore des limites au progrès, si vous voulez. Alors là, il ne faut pas que je bouge, c'est une première synthèse de ce que je vous ai dit, en fait, disons. Vous voyez la courbe du haut, c'est ce qu'on appelle le rapport Meadows. Ce sont des chercheurs qui ont essayé de dire justement où c'est qu'on va. C'était le début de l'informatique, 1970. Et ils ont essayé de créer des boucles mathématiques, des logiques mathématiques à partir de données précises. Je vais vous expliquer ça. Par exemple, on a des ressources naturelles, on a une production industrielle, on a la population. La population, c'est la courbe, vous voyez, certains. On a la population. Tout ça, on a des données là-dessus. On sait combien on est sur Terre, on sait à peu près le stock de ressources naturelles qu'il y a sur Terre, et on sait, je vous ai dit quoi, le niveau de pollution pour regarder ces zones-là. Et en fait, ils essaient de réfléchir comment tout cela s'est lié. Ils vont essayer de prévoir ce qui se passe dans l'avenir si on continue à suivre le même mode de développement, le même progrès dont on a vu que déjà il générait certaines limites. Donc ils vont dire, si la population augmente, on va avoir besoin de plus de ressources naturelles, par exemple, et de plus de production alimentaire, et aussi de faire plus de production industrielle. Et tout ça, ça va générer plus de pollution. Il va y avoir de moins en moins de ressources naturelles. Vous êtes d'accord, ce n'est pas absurde ce que je dis. Et ils vont réfléchir comme ça, et bien sûr, ils vont faire ça de manière beaucoup plus précise. Et ils vont rentrer ça dans leur ordinateur, Et leur ordinateur va lire dans l'avenir, finalement. Va dire, si on continue comme ça, d'après ce que vous nous avez dit, eh ben voilà ce que ça va donner. Et ce que ça donne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un effondrement des courbes, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, c'est que ce système n'est plus vivant, n'est plus viable, n'est pas durable. Vous voyez, la population qui augmente, au bout d'un moment, elle décroît fortement. Même la pollution décroît, même les quotas alimentaires, même les richesses, et surtout les ressources naturelles qui sont peut-être à la base du fait que ce modèle s'effondre. On dit que ce modèle s'effondre. La surexploitation des ressources, mais aussi peut-être la surpopulation ou la surindustrialisation, tout cela fait qu'à un moment, ce modèle s'effondre. Et c'est un modèle qui date un peu, qui date des années 70. Les auteurs montraient que ça s'effondrait vers 2000, au début c'était 2000, et puis 2020, et puis 2040. En fait, il y a différents modèles, si vous voulez. Mais ce modèle a eu un fort impact au niveau international. C'est le rapport Meadows, vous pouvez retenir le nom. Et ils ont essayé d'autres boucles. Ils se sont dit, bon, on a dû exagérer, on n'utilise pas autant de ressources que ça. Ou alors la population ne va pas aussi augmenter que ça. Ou alors la production industrielle ne pollue pas tellement que ça. Eh bien non, tous leurs modèles se sont effondrés à un moment ou à un autre avant 2100. La seule fois où ils arrivent à peu près à stabiliser le modèle, c'est quand ils disent qu'il va falloir stabiliser la population, limiter fortement l'exploitation des ressources naturelles, limiter la production industrielle, limiter les richesses, limiter l'exploitation des ressources naturelles, je l'ai déjà dit, vous avez compris, limiter, utiliser des techniques douces. Bref, il va falloir faire attention. Et c'est ça aussi le développement durable. C'est aussi faire attention et mettre en question l'objectif de ce progrès et de ces techniques et leur aboutissement. Des limites encore, des limites à l'industrialisation. Vous connaissez tous le phénomène du changement climatique. Ici, deux exemples repris de l'émission Le Dessous des Cartes, où vous voyez qu'il y a une évolution en haut, évolution de la température assez brusque à partir de 1900. Vous voyez, la courbe qui monte tout d'un coup et qui est corrélée, c'est-à-dire qui correspond à l'élévation du taux de CO2 dans l'atmosphère, qui est en bas, à partir de 1800, de 1850. À la même période. À partir du moment où il y a eu cette révolution industrielle et qu'on a rejeté beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, tout d'un coup, la température globale de la planète s'est mise à augmenter plus rapidement. Ça aussi, c'est un peu les limites de l'industrialisation, le changement climatique. Des limites dans la rationalisation, peut-être plus proche de nous. Là, c'est l'idée qu'un pot de yaourt, quelque chose qu'on mange fréquemment, surtout au pruneau pour ceux qui aiment ça, ou à la fraise aussi. À la fraise, c'est meilleur. Alors, là, c'était pour le pruneau, mais la fraise, c'est pareil. Donc, un pot de yaourt à la fraise, disons. Nécessite, pour produire un pot de yaourt à la fraise, il faut, en fait, énormément d'énergie. Finalement, malgré tous les progrès techniques et scientifiques, et malgré cette industrialisation, pour fabriquer un pot de yaourt, ou là, l'exemple, c'est pour fabriquer 10 pots de yaourt, on peut faire rouler une voiture pendant 1,25 km. Ou peut-être un yaourt à la fraise a parcouru virtuellement, c'est-à-dire pour amener la colle, les pruneaux, les fraises dans le cas de la fraise, évidemment, l'étiquette, le sucre, le lait, et pour le distribuer, ce pot de yaourt va parcourir en moyenne près de 8000 km. On est juste un simple petit pot de yaourt que vous allez manger. Il a peut-être voyagé plus que vous durant les 15 dernières années. Quand 8000 km, vous avez peut-être voyagé un petit peu quand même. Vous vous compte de la consommation, de la quantité d'énergie pour fabriquer ce pot de yaourt. C'est quelque chose de très simple. Donc un petit récapitulatif, des limites finalement, des limites au projet du progrès, parce que ce progrès, il veut quand même nous faire du bien. Je ne sais pas trop comment le dire différemment, nous rendre heureux. Mais est-ce qu'il nous rend vraiment heureux? Est-ce qu'il nous fait vraiment du bien? Donc des limites, on l'a vu avec le progrès. Est-ce que le progrès dans l'armement est-il vraiment nécessaire? Jusqu'où va-t-il nous conduire? Des limites dans le partage du progrès, du développement. C'était les dessins que vous n'avez pas vus et ceux que vous avez vus aussi sur les inégalités nord-sud. hein, ou alors la concentration des richesses dans les pays du Nord, des limites dans le rapport rural-urbain, si on déserte les campagnes et si on vient s'amasser dans les villes, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que ça ne va pas générer des problèmes? Des limites dans l'espérance de vie. Cette espérance de vie, elle profite surtout à certaines personnes. Encore une fois, surtout aux pays riches. Mais même dans les pays riches, il y a des distinctions. Je veux dire, les métiers, par exemple, les cadres supérieurs, en moyenne, vivent plus longtemps que les ouvriers non qualifiés, par exemple. Je ne sais pas si c'est des catégories qui vous parlent, mais... Des limites dans la scolarisation. Tout le monde n'a pas cette fabuleuse chance d'aller à l'école, comme en France, par exemple. Comme vous avez la chance en France d'y aller. Des limites liées au changement climatique, mais aussi à beaucoup d'autres problèmes environnementaux. J'essaie de pas trop les aborder parce qu'en général, ils sont souvent abordés. À la biodiversité, à la gestion de l'eau, à diverses formes de pollution. Ah, je pense qu'à Paris, on est bien placé, hein, du point de vue de la pollution. Les grosses villes comme ça, vous imaginez, vous promenez dans le périphérique, tout ce que ça va générer comme pollution et comme danger pour notre santé. Mais peut-être aussi des limites pour imaginer, pour rêver, des limites pour l'avenir. Comment on est parti dans ce qu'on appelle une idéologie du progrès. On fait tout pour progresser, mais on ne sait plus où on va et on ne sait plus ce que ça nous apporte. Bref, des limites au progrès et au développement. Je voulais essayer de vous présenter un auteur dont il y avait une caricature rigolote ici, mais c'était pas très grave. Le progrès, dit Ivan Illich, le progrès et la technique nous servent jusqu'à un certain point. Au-delà, ils nous desservent plus qu'ils ne nous servent. Et ça serait bien de réfléchir à ça. Voilà, il ne faut pas en abuser. Mais même, c'est peut-être que le progrès lui-même a une certaine limite. Par exemple, quand je prends ma voiture, c'est un progrès, c'est pour aller plus vite et pour aller plus loin, et même pour emporter des gens avec moi. Et en même temps, quand tout le monde a voulu s'emparer de la voiture, et même si on a tout fait pour que tout le monde puisse avoir une voiture, pour faire Meudon jusqu'à la Tour Eiffel, je n'ai pas intérêt à prendre ma voiture. Il vaut mieux que j'imagine que je prenne le bus. Est-ce que je me trompe ou le Transilien? Vous prenez quoi pour aller? Ouais, enfin, vous n'avez pas la voiture, mais... Ou le taxi. Ok, c'est cette idée que développe Illich. C'est que ce progrès, à un moment, passé un certain seuil, eh bien, il ne sert plus à rien. Voire, au contraire, il nous dessert. Parce que maintenant, nous avons tous des voitures, nous sommes tous obligés d'en avoir. Enfin, nos parents ou vos parents ont tous des voitures. Et tout le monde est obligé d'avoir une voiture. Et sans doute, vous aussi, vous aurez une voiture, d'ailleurs. Et dans le même temps, prendre cette voiture, ça veut dire... faire les bouchons, ça veut dire participer à ce système qui est saturé de voitures déjà. Bon, il dit ça pour différentes choses. Il arrive même à montrer que même l'école, même l'institution scolaire, passé un certain seuil, peut abêtir. Vous pouvez lire son ouvrage, c'est une société sans école. Bref, réfléchir, c'est pas qu'il faut se passer de l'école, mais c'est qu'on pourrait essayer de réfléchir à éduquer, à apprendre, à partager le savoir différemment. Ah, il y avait une autre image. Ah oui, cette autre image, c'était voilà, des bouchons de voitures monstrueux. Un autre exemple ici, de prise de conscience, si vous voulez. Jusqu'où nous mène ce progrès et où voulons-nous aller? Ça, c'est René Dumont qui s'est présenté aux élections présidentielles en 1974, en France. C'était le premier représentant du Parti Vert, qui a eu 337 000 voix. Et qui a écrit cet ouvrage-là, l'utopie ou la mort? Qu'est-ce qu'on cherche, en fait? Justement, on a un progrès énorme qui nous a aidés. Où c'est qu'on veut aller, maintenant? Alors, c'est une vision assez manichéenne, c'est-à-dire, j'imagine que peu de gens veulent aller à gauche et plus de gens veulent aller à droite. Mais attention, le titre est intéressant. C'est l'utopie ou la mort? L'utopie, c'est un rêve inaccessible, par définition. Quelque chose d'utopique, c'est qui est inaccessible, mais vers lequel on aimerait aller, ou vers lequel on aimerait tendre. Et c'est impossible. Ou alors c'est quelque chose où il faut mobiliser l'ensemble de la société pour y accéder. Et ça, c'est pas forcément facile. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que de l'autre côté, regardez ce que nous rappelle ce dessin, cette ville monstrueuse et polluée. Et c'est là que donc le développement durable intervient comme une réponse, si vous voulez. Alors je vous ai mis beaucoup du texte pour reprendre la définition. Voilà, surtout, merci. En bas, définition qui date, la définition officielle, communément partagée du développement durable, définition qui date de 1987, et qui dit que ce développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est-à-dire que ça prend en compte aussi l'idée que ce que nous faisons aujourd'hui, ça a un impact pour demain et pour nos enfants. D'ailleurs, quand je fais des enquêtes, quand j'interroge les gens sur leur... quand je travaille... récemment, j'ai travaillé sur la gestion de l'eau, sur comment utiliser moins d'eau. Les gens comptent énormément sur les enfants. Ils disent qu'il faut sensibiliser les générations nouvelles, les jeunes, vous. Mais moi, j'en suis pas sûr. Je crois que vous aussi, vous devez sensibiliser les non-jeunes, les vieux. Ça, c'est important aussi, parce que vous aussi, vous savez beaucoup de choses. Et c'est vous qui allez vivre ce monde de demain. Et c'est à vous aussi de dire aux non-jeunes, aux vieux, aux autres générations, de s'occuper dès maintenant de ce développement durable et de cette société, et de ces problèmes. En même temps, ce développement durable, ce n'est pas que des problèmes, c'est aussi une dynamique collective et internationale. Je n'ai pas envie que vous croyiez... Ah oui, vous voulez noter la définition. Okay. Ce qui compte, c'est plutôt en bas. Hein, le reste, c'est Madame Brundtland, l'ouvrage « C'est notre avenir à tous », donc 1987. Donc l'autre diapo, c'était pour vous montrer que c'était des grandes dates aussi, qu'il y a eu des grands sommets internationaux depuis les années 70, disons, qui ont porté cette idée de développement durable. C'est aussi un rassemblement. On se rend compte quand même qu'il y a des inégalités, mais qu'on peut faire quelque chose contre ces inégalités. On peut se mettre ensemble et réfléchir à voir comment on va partager davantage les ressources, les richesses, etc. On peut se rendre compte qu'il y a des problèmes de pollution, d'environnement, mais on peut aussi voir comment on va faire pour lutter contre ces problèmes. Comment on peut changer nos modes de vie, par exemple. Il va falloir que je change quand même. Donc là, c'est différentes dates. Donc, avec pour vous montrer que c'est quelque chose qui... On s'y intéresse au niveau international. Ça, c'est des grands sommets. Donc, j'ai arrêté ça jusqu'en 2005, mais ça continue toujours. Récemment, à des grands sommets, ça a été à Copenhague sur le climat. Donc, c'est là, dans ces grands sommets qu'on a élaboré finalement cette vision écologique, sociale, économique. J'accélère un peu. Un autre tableau pour vous montrer justement qu'il n'y a pas que... on a beaucoup parlé des pays nord, des pays du nord, des pays riches. Vous voyez, ils sont à gauche. Eux, ils sont en haut à gauche, finalement, ils sont riches. Ils doivent essayer de limiter leur impact sur l'environnement. Là, c'est ce que ça dit. Et les autres pays doivent essayer d'augmenter effectivement leur richesse sociale aussi, pas que économique, sans augmenter leur pression sur les ressources. C'est ça qu'essaie de montrer ce tableau. Et en général, il y a trois grandes acceptations du développement durable. On va en aborder que deux, en fait, les deux premières. Dématérialisation et croissance verte, et l'autre qui s'appelle un autre développement. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que tout le monde est d'accord pour faire du développement durable. Et ça aussi, on n'est pas souvent tous d'accord pour faire quelque chose. Et là, tout le monde est d'accord. Vous pouvez demander à n'importe qui, dans la rue ou au sein du gouvernement ou de l'ONU, tout le monde veut faire du développement durable. Même vous, j'en suis sûr. Merci. Donc, il y a différents choix. Ici, le premier, il y a différentes acceptations quand même. Si tout le monde veut en faire, c'est que tout le monde ne le comprend pas de la même manière. Et il y en a notamment un qui s'appelle la dématérialisation ou la croissance verte, et qui est celui finalement qui est le plus en vogue, mais qui est celui... sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez le plus, que vous ayez un regard, que vous preniez vos distances, vous mettez à distance pour réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter ce modèle, mais qu'il faut le mettre en question. Parce qu'on a déjà vu les limites du progrès, et là, je voudrais qu'on voit quand même les limites de cette ambition-là, qui dit notamment que la croissance économique et le marché vont réguler les excès et indiquer la marche à suivre. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, mais... Si on continue à faire comme on fait d'habitude, finalement, c'est ça le BAU, c'est l'anglais pour business as usual, l'économie, le business comme d'habitude, comme on a toujours fait. Si on fait comme ça, ça va résoudre les problèmes. Et en plus, la science et la technique vont nous aider à résoudre ces problèmes. Parce qu'on va trouver des nouvelles solutions pour freiner la pollution, pour soigner les nouvelles maladies, ce qui est vrai aussi. Mais ce qu'on ne prend pas assez en compte, c'est que ce système économique est dépendant des ressources, ces ressources qui sont de plus en plus rares, et qu'à un moment ou l'autre, ce système économique va rencontrer des problèmes. Là, on sait que maintenant, il y a de moins en moins de pétrole, enfin, depuis le début, il y a de moins en moins de pétrole sur la Terre, puisqu'on l'utilise. Mais maintenant, on sait qu'on a passé la moitié à peu près des stocks de pétrole. Et en parallèle, la science et la technique créent souvent de nouveaux problèmes sans résoudre les anciens. C'est-à-dire, pour résoudre des problèmes, on va proposer d'autres techniques, mais qui ne vont pas forcément être une solution. Je vous ai proposé Illich, c'est-à-dire le développement de nouvelles techniques, passé un certain seuil, desservent plus qu'elles ne servent, sont contre-productives. Ou alors, je vous ai mentionné quelques risques contemporains, comme le risque nucléaire, par exemple. C'est super de profiter de l'énergie nucléaire, là, dans laquelle je ne pourrais pas faire cette présentation, ce diaporama. Et en même temps, le nucléaire, c'est un risque fort. Vous avez tous entendu parler des accidents de Tchernobyl, j'imagine, même si c'était déjà il y a 25 ans. Ce sont des risques très très forts. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des déchets nucléaires qui ont voyagé de la France jusqu'à l'Allemagne. Ça a mobilisé beaucoup de gens aussi. C'est qu'on s'inquiète du nucléaire. On sait que ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Donc on profite de cette énergie, mais dans quelle mesure ça ne nous met pas en danger de profiter de cette énergie ? On a d'autres questionnements, comme les OGM. On ne sait pas où ça va, en fait. Est-ce qu'on contrôle ces OGM ou pas ? Mais je ne sais pas. Un problème sur les ondes électromagnétiques. Est-ce que les enfants, les jeunes de 15 ans, doivent avoir des téléphones portables ou pas ? Parce que les téléphones portables, paraît-il, gênent le développement de certaines parties du cerveau qui sont près de l'oreille. Mais quand vous êtes des parents, vous dites, attendez, mon gosse, si on ne dit pas mon jeune, mon jeune, ouais, mon gosse, ouais, parce qu'on est entre parents, mon fils et ses amis, est-ce que ce n'est pas un risque pour eux d'utiliser ce téléphone portable ? Bien sûr, il en veut un. Bien sûr, il a raison, c'est la modernité. Je veux que mon fils et ma fille soient modernes. Je veux qu'ils puissent imiter ses amis, qu'ils soient, etc., etc. Mais est-ce que ce n'est pas un danger pour lui ? Vous voyez ? Des nouvelles formes de pollution aussi, etc. La dématérialisation, c'est aussi cette idée que justement les nouvelles technologies sont beaucoup moins polluantes. Surtout avec ce terme de dématérialisation. Mais l'usage d'Internet, ça consomme beaucoup d'électricité. Là, c'est un peu vieux, mais c'était pour dire qu'il y avait des prédictions qui disaient qu'en 2010, en Allemagne, l'énergie dépensée pour Internet allait être égale à l'énergie produite. Enfin, il allait falloir 3 centrales nucléaires et demie pour produire l'énergie juste pour faire fonctionner Internet. C'est énorme, quand même. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais oui, si, je vous le dis, c'est énorme. Et puis, ces technologies, n'abolissent pas les inégalités Nord-Sud. D'abord, Internet et les ordinateurs, c'est surtout des questions des pays du Nord et des pays riches, même si, effectivement, ça tend à être de plus en plus présent dans les pays du Sud. Mais par contre, ça continue à générer beaucoup de pollution. Vous avez à gauche, par exemple, ce que contient un PC. Des métaux ferreux, du plastique, des métaux non ferreux, dont du plomb, du mercure, et d'autres que je connais moins, du verre et des composants électroniques. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans ces métaux, surtout dans les métaux non ferreux, il y a des métaux dangereux, en petite quantité. Mais on a tellement d'ordinateurs, on a tellement de téléphones portables, que cette petite quantité, elle devient de plus en plus énorme. Et est-ce que vous savez qui retraite ces déchets ? Et le plus souvent, ils vont dans les pays du Sud. Et ils sont traités dans des conditions, retraités dans des conditions assez désastreuses, qui en tout cas ne seraient pas acceptées en France. Alors, il y a une convention qui existe sur le traitement des déchets dangereux, mais la plupart de nos déchets sont quand même exportés ailleurs. Sous-entendu, nous, on n'en veut pas de nos déchets. C'est sûr. Parce qu'ils sont dangereux aussi. J'avais cette même idée dans l'idée de la croissance verte et de la dématérialisation. C'était qu'est-ce que nous apporte ce progrès technique aussi. C'était encore l'occasion de vous mettre en question. Et après, je crois que j'ai à peu près fini. C'était sur le nombre d'heures qu'on passait devant la télévision. J'ai pensé qu'il allait beaucoup diminuer. Et en fait, pas du tout. Il est encore, donc, au total, l'individu de 4 ans et plus, c'est 3h25 en 2009, par jour. Par jour. Sans compter Internet, etc. Pour les individus de 4 ans et plus. 4 ans et plus. Je n'ai pas les statistiques pour les 15 ans, mais, ou 15-16 ans, ou pour les secondes. Mais je sais que pour les... non, film, en tout, combien de temps là, le temps d'écoute de la télévision, ça s'appelle 3h30 par jour, ça veut dire... Moi, je trouve que c'est énorme, parce que entre... Ouais, ça fait deux films... Ça fait deux films. Je ne trouvais pas que c'est beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on apprend derrière la télé? Est-ce que la télé nous sert vraiment? Ah, mais tant mieux. C'est bien. C'est pour vous faire réfléchir aussi. C'est pour vous faire réfléchir. Tant mieux. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Parce qu'à côté, on va aussi beaucoup sur Internet. On est aussi beaucoup sur nos téléphones portables. Je ne sais plus à quel moment on communique, à quel moment on réfléchit, et à quel moment ce n'est pas la télé qui essaie de nous écraser. Regardez la phrase que j'ai reprise. Vous connaissez aussi. L'ex-PDG de TF1 qui disait que la télévision, ça servait à vendre du temps de cerveau disponible. Vous êtes pris un peu, excusez-moi l'expression, pour du bétail, quoi. On veut juste vous vendre de la publicité, c'est ce que ça veut dire, en tout cas. On veut que vous soyez un cerveau disponible. Vous voulez être un cerveau disponible ou vous voulez être acteur de votre vie et de vos choix? Ok, des fois on a le temps de se reposer, mais on a le droit de se reposer et de regarder un bon film nul à télé. Je vous interdis pas du tout de faire ça. Je veux juste que vous réfléchissiez au sens des actes. L'autre aspect, c'est plutôt un autre développement. C'est pas de faire uniquement confiance à cette technique et à la croissance économique. C'est aussi de réfléchir à nos modes de vie. Ici, c'est un scénario. Donc, je vous dis, ne pas tout miser sur le progrès, mais peut-être réfléchir à nos modes de vie, justement. Est-ce qu'on a besoin de changer de téléphone portable aussi régulièrement que ça? Est-ce qu'on a besoin d'un téléphone portable? Oui, je m'y attends, mais j'ai encore des amis qui n'ont pas de téléphone portable. Si, ça existe. Trouver des techniques et des usages plus efficaces. Bon, ça fait partie. La technique peut quand même nous servir, il ne faut pas l'exclure. Préférer des énergies renouvelables, ne pas laisser se duper par des choix technologiques. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, nos voitures roulent au pétrole qu'elles doivent continuer encore 40 ans à rouler au pétrole. On pourrait changer dès à présent, par exemple. Et ici, c'est un scénario qui explique justement ça. Cette sobriété, notamment, ça pourrait être notre mode de vie. Avoir un mode de vie plus sobre. C'est-à-dire s'informer, savoir comment, qu'est-ce qui consomme beaucoup d'énergie, qu'est-ce qui génère des inégalités aussi, et comment je peux améliorer cela. Faire en sorte de générer moins d'inégalités, donc plus d'égalité, et moins de dégradation des écosystèmes. Cette idée d'un autre développement, c'est aussi de trouver d'autres indicateurs de bonheur, de richesse, de partage, d'intelligence, le dernier mot aussi. Comment, jusqu'à présent, on est beaucoup resté sur un seul indicateur qui était le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse économique globale d'un pays. Or, justement, et le développement durable a contribué à ça, on essaie de réfléchir à d'autres indicateurs. Peut-être que la richesse n'est pas le summum à atteindre. Est-ce que le but dans votre vie, c'est de devenir riche? On a tous envie d'être riche, je ne vous cache pas. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que vous ne pouvez pas, préférez pas être heureux plutôt qu'être riche, après tout? C'est pas du tout la même chose. Non, ça c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous croyez. Ok, voilà. Non, mais tant mieux. Est-ce que vous en êtes sûr? Ah, c'est bien, il faut réagir. Ok. En tout cas, voilà, garder cette idée de prise de conscience, agir de telle sorte que cela ne nuise pas aux autres, ni à la vie en général, ni à l'avenir. Déjà, ça aussi, c'est le développement durable. C'est prendre conscience de nos actes aussi. Et ce n'est pas si facile que ça. Il va falloir vous informer beaucoup. Parce que je ne vais pas tout vous dire, parce que mon diaporama s'arrête bientôt. Et mettre en question les idées dominantes, les modes aussi. Bien sûr, vous êtes jeunes. Ce sont les jeunes qui sont les plus soumis, finalement, aux modes. Mais, et aux habitudes. C'est-à-dire que vous avez tous besoin d'un téléphone portable. Je le sais. On le sait tous, d'ailleurs. Mais peut-être réfléchissez quand même. Gardez ça, pas forcément sur téléphone portable ou sur d'autres choses, mais essayez de mettre en question ce qui vous semble absolument nécessaire. Participer aux décisions aussi, ça c'est quand même très positif. C'est aussi l'occasion, cette grande réflexion sur le développement durable, justement de faire participer tout le monde, y compris les jeunes. Je crois que j'ai deux dernières diapos. C'était pour vous présenter un cadre d'action possible qui est celui de l'agenda 21, qui est élaboré, c'est l'application du développement durable. Donc la diapo a un peu sauté, mais qui dit en gros qui essaie de donner qui est un programme d'action pour le 21e siècle. C'est pour ça que ça s'appelle agenda 21. Comment on va agir pendant ce 21e siècle? C'est-à-dire maintenant, ça a déjà commencé. Il va falloir qu'on s'y mette et que vous participiez aussi. C'est votre 21e siècle. Et les pistes, bon, excusez-moi, je suis obligé de passer, c'était vous donner quelques pistes dans cet agenda 21. Je pense qu'ils peuvent vraiment concerner un lycée, d'autant plus qu'un agenda 21, ça peut être fait dans le cadre d'un lycée, par exemple. C'est fait pour les collectivités et les institutions, et il y a des lycées qui ont des agendas 21. Et je ne sais pas si à Rabelais, il y en a un. Je ne crois pas, parce qu'en général, ils diffusent sur Internet. Et je me suis dit, puisqu'on avait ensemble cette réflexion, si jamais ça germe après, ou si jamais vous avez des idées, des initiatives, vous pouvez vous référer à ce cadre-là, à l'exemple d'autres lycées qui ont fait ça. Donc les thèmes, ça peut être ceux-là, je n'ai pas le temps de les détailler, autour des questions sociales et économiques, de la gestion des ressources. Il y a un thème qui est celui-ci, renforcer le rôle des grands groupes. Alors ça parle beaucoup des femmes, parce que dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas les mêmes rôles, les mêmes droits que les hommes. Beaucoup des populations autochtones, parce qu'elles aussi, elles sont souvent mises à l'écart. Des minorités en général, mais ça veut aussi donner plus de poids aux jeunes. Où sont représentés les jeunes en politique en France, par exemple? On a des grandes institutions où il y a beaucoup de vieux. Alors, je crois que ça se rajeunit, mais je ne crois pas qu'au Sénat, par exemple, il y ait beaucoup de jeunes. Et un autre cadre d'action que j'ai trouvé pour vous, c'était E3D, les établissements en démarche de développement durable. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de fouiller, mais vous pouvez aussi trouver des informations là-dessus. Pour justement mettre en pratique tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on s'est dit ici. Voilà, je vous remercie.